Radio Ondaine vous propose pour cette année 2019 une série de tables rondes radiophoniques autour des violences faites aux femmes, violences intrafamiliales, avec des acteurs de notre territoire qui, de par leurs activités, apportent un soutien aux victimes et tentent de trouver des solutions dans l'accompagnement de celles-ci et de leur entourage. Aussi, nous essayerons avec nos invités de comprendre l'enjeu de la sensibilisation des plus jeunes sur ce fléau que sont les violences faites aux femmes. Nous tâcherons de ne pas oublier non plus le travail à réaliser avec les auteurs de ces violences pour éviter la récidive et pour une prise de conscience de ces actes. Et pour notre premier numéro, nous avons souhaité inviter Michèle Perrin, directrice de SOS Violence Conjugale 42. Madame Perrin, bonjour, bienvenue sur l'antenne de Radio Ondaine. En quelques mots, comment peut-on décrire SOS Violence Conjugale 42, cette association, quelle est-elle ?
SOS Violence Conjugale 42, comme son nom l'indique, s'adresse aux victimes de violences conjugales. Nous disposons de plusieurs services, un lieu d'écoute et d'information où les victimes, leurs proches et les professionnels peuvent nous solliciter et les gens sont reçus anonymement et bien évidemment gratuitement. Nous avons aussi un centre d'hébergement de 33 places. Ces 33 places sont installées dans 8 appartements dans lesquels nous pouvons héberger des femmes avec ou sans enfants. Nous faisons aussi de la prévention au milieu scolaire pour sensibiliser les jeunes à ces questions d'égalité. Nous formons les acteurs de terrain pour qu'ils soient en mesure de recevoir dans de bonnes conditions les victimes de violences conjugales qui pourraient s'adresser à eux, à Pôle emploi, la gendarmerie, la police, les centres sociaux, etc. Et puis nous avons un service en direction des auteurs de violences conjugales, puisque si l'on veut que les violences cessent, il faut évidemment aider les femmes à ne plus en être victimes, mais aider les hommes aussi à changer de comportement.
Alors historiquement, depuis quand existe cette association ?
L'association a été créée en 1986, elle s'appelait Solidarité Femmes Loires parce que née de la mouvance féministe et c'était la solidarité entre femmes qui était mise en avant. Au fil des années, on s'est rendu compte que ce titre ne disait pas très clairement ce que nous faisions et en 2007, le nom a changé pour devenir SOS Violence Conjugale qui a au moins le mérite de dire très clairement pourquoi on peut nous contacter.
Alors aujourd'hui, en 2019, ça représente combien de personnes qui travaillent ou qui interviennent à SOS Violence Conjugale 42 ?
Nous sommes une équipe de 15 salariés, 11 équivalents temps plein. L'équipe est essentiellement composée de travailleurs sociaux, assistantes sociales, nous avons un homme, éducatrices.
D'accord. Alors, on parle de violence conjugale. Comment on définit cette notion, entre guillemets, de violence conjugale ? Alors, je dis notion, mais c'est une réalité aussi.
Alors, il y a plusieurs choses à dire. Quand on parle de violence conjugale, on ne parle pas forcément de violence physique. Autrefois, dans les années 70, quand la question est arrivée un peu sur la sphère publique, on parlait de femmes battues. Aujourd'hui, on préfère le terme de femmes victimes de violence conjugale parce que les violences ont plusieurs visages. On parle de violence verbale. C'est tout ce qui est insulte et qu'il ne faut pas banaliser. On parle de violence psychologique, c'est tout ce qui est dénigrement, humiliation, contrôle. On parle de violence physique, voilà, là on comprend mieux. On parle aussi de violence économique, c'est-à-dire que ce sont des femmes qui sont soit empêchées d'aller travailler parce que leurs compagnons ne supportent pas qu'elles aient une autonomie sociale et économique, ou parfois qu'elles gagnent plus qu'eux, ou des femmes qui travaillent à qui on prend leur salaire. Il y a aussi des violences administratives. On a tendance à dire qu'il n'y a pas de vol entre époux. C'est vrai. Pour autant, un conjoint peut aujourd'hui porter plainte si son compagnon, son conjoint, lui a volé les éléments qui font d'elle une citoyenne, c'est-à-dire les clés de voiture, le passeport, sa carte d'identité, la carte de séjour. On n'a pas le droit de utiliser ces documents à sa conjointe. Et puis, il y a aussi des violences sexuelles dont on parle peu. Les femmes ont honte de parler de ça, mais évidemment, on peut difficilement imaginer qu'un homme qui insulte sa femme et qui la bat, que la femme puisse être consentante le soir pour avoir des relations sexuelles avec son mari. Donc voilà ce qu'on entend quand on parle de violence. Alors, il faut distinguer les violences du conflit. Le conflit, c'est ce qui nous permet de vivre en démocratie. Nous ne sommes pas d'accord. Pour autant, ce n'est pas la guerre. Le lendemain des élections, il y a des gagnants, il y a des perdants. Les perdants ne sont pas assassinés. Les gagnants ne prennent pas des kalachnikovs pour asseoir leur pouvoir. Il y a un respect de la diversité, il y a un respect de l'altérité. Dans le cadre des violences conjugales, on n'est pas du tout là-dedans. Dans le cadre des violences, il y a quelqu'un qui ne supporte pas, qui ne peut pas reconnaître l'autre comme son égal et qui va agir de la violence. Un philosophe a dit que la violence, c'était le langage du pauvre. alors pas pauvre économiquement, mais sans doute le langage d'un homme qui n'arrive pas à dire ses émotions, qui n'arrive pas à dire ses difficultés et qui va frapper pour montrer que c'est quand même lui le sexe fort. Donc la violence, c'est pas un homme qui pète les plombs, comme certains le disent, ou qui ont perdu le contrôle d'eux-mêmes, ce sont des hommes qui utilisent la violence pour garder le contrôle de la situation et le contrôle de la famille. Donc voilà ce que c'est que la violence, c'est la négation de son partenaire. Et conjugal, ça explique. On a tendance aujourd'hui, quand on parle de la délinquance dans les médias, on dénonce des quartiers dits difficiles, on parle des incivilités dans les cages d'escalier, etc. Et on a mis du temps à dire qu'aujourd'hui, les femmes sont en danger dans leur maison. C'est ça, les violences conjugales. C'est victime de violence dans une sphère où, classiquement, quand on rentre chez soi, on se dit qu'on a la paix, on est tranquille. Eh bien, c'est le lieu de tous les dangers pour les femmes.
Alors, historiquement, quand est apparu ce terme, violence conjugale? Vous avez évoqué un peu les années 70. Mmh. Donc, c'est après... juste après l'émancipation, oui, entre guillemets, de la femme.
Oui, il revient après les années 68. Il revient au mouvement féministe d'avoir porté ces problématiques, parmi d'autres, sur la place publique. Mais... oui, on a d'abord parlé, en même temps, elles ont parlé du viol, puis on a parlé des violences conjugales, quand on s'est rendu compte, sans doute, que la famille était le lieu de tous les dangers. Et puis, petit à petit, on a parlé des violences sur enfants. Donc, il y a eu une prise de conscience. Je remonterai dans les années 70, après 68, on commence à dénoncer ces violences-là. Par contre, dans la prise en compte des violences conjugales, là aussi, il y a une évolution. On a d'abord parlé des femmes victimes, et puis on a parlé des auteurs, puisqu'aujourd'hui on commence à mettre en place des actions en direction des hommes dits violents. Et puis enfin, plus récemment, on commence à parler des enfants qui sont exposés aux violences conjugales, parce que la violence conjugale ne touche pas que la femme victime, mais les enfants qui entendent, qui voient, sont effectivement très impactés et vont avoir un développement plus difficile.
Alors, on reste un peu dans l'historique, un peu la culture, société patriarcale, la femme en dessous de l'homme. Ces changements de mentalité-là, comment existe-t-elle? Comment était-elle? Et comment on s'en défait finalement aujourd'hui?
Eh bien, on s'en défait difficilement, puisque si l'on voit le phénomène MeToo et le nombre de témoignages qu'ils ont récoltés, on se rend compte que, voilà, même si on est dans un pays où la Constitution spécifie l'égalité entre hommes et femmes, dans la pratique, c'est loin d'être le cas. Enfin, l'égalité salariale n'est pas encore acquise. L'accès aux fonctions politiques, c'est pas si simple. Le plafond de verre existe. Il y a des petites améliorations au moment de Noël dans les catalogues de jouets, mais les pages restent roses pour les filles, c'est encore les poupées, c'est encore les jouets pour faire comme maman, alors que c'est d'autres jeux qui sont proposés aux enfants. Donc il reste encore beaucoup à faire pour que cette égalité qui est inscrite dans nos textes politiques fondateurs se concrétise. Enfin, quand on voit que dans les collèges ou dans les lycées, il y a encore de la violence sexuée, on se dit qu'il y a encore beaucoup à faire en termes de prévention et on est tous concernés par ça. Le corps enseignant, bien sûr, la sphère des loisirs, il faut aussi sensibiliser les animateurs dans les colos, dans les centres aérés pour qu'il y ait ce respect entre les sexes. Et puis les parents sont aussi concernés dans l'éducation qu'ils vont donner à leurs enfants, mais il reste encore beaucoup à faire.
Alors, on reviendra un peu sur ces notions larges, sociétales. On va maintenant aborder le quotidien des SOS Violences Conjugales 42. Alors, qui fait appel à vous? De quelle manière? Et puis, quel est votre rôle d'accompagnement à partir du moment où vous recevez ces femmes qui vous joignent?
Alors, je l'ai dit, l'association existe depuis 30 ans, donc nous sommes quand même bien implantés dans la Loire et nous sommes connus. Donc, pour nous contacter, c'est extrêmement simple. On peut nous téléphoner pour prendre rendez-vous au 04 77 25 89 10. Et on prend rendez-vous et on est reçu par un travailleur social formé, une femme. Actuellement, ce sont des femmes qui sont à l'accueil. Je l'ai dit, on est reçu anonymement. Ça, c'est très important pour les victimes qui ont souvent très peur puisqu'elles sont habituées à être niées. Elles ont très peur qu'on fasse des démarches sans leur assentiment. Donc, l'anonymat est vraiment très important. Elles prennent rendez-vous en disant qu'elles s'appellent Michel, Bernadette, Martine ou Brigitte, peu importe. Un prénom nous suffit. elles peuvent donner un faux prénom, mais c'est ce qui nous permettra de les reconnaître si elles reviennent plusieurs fois. Donc la porte d'entrée, c'est souvent le lieu d'écoute et d'information des femmes, très très majoritairement des femmes, même si on a une petite vingtaine d'hommes qui nous appellent chaque année. Des femmes viennent voir, on ne sait pas toujours expliquer ce qui a provoqué le déclic. On reçoit des femmes qui sont violentées depuis plusieurs années, puis un beau jour, elles osent franchir notre porte. Est-ce que hier, il y a eu un mot de trop, une goutte qui a fait déborder le vase, une émission à la télé, dans les médias, qui leur a fait prendre conscience soudain que c'était d'elles dont on parlait? Donc elles nous téléphonent, elles ont un rendez-vous et elles viennent parler de ce qu'elles subissent à la maison, vérifier que ce sont bien des violences, puisqu'elles ont tendance à banaliser ou à nier ou à minimiser. Donc il faut rappeler qu'il n'y a pas de petites violences, il y a des violences et qui iront crescendo. Donc elles viennent parler de ce qu'elles vivent à la maison et... on va leur offrir cet accompagnement au long cours, c'est-à-dire que ce n'est pas en un seul entretien qu'on va passer d'une situation de femme victime de violence à une femme émancipée. Il va falloir plusieurs entretiens pour que ces femmes s'autorisent à imaginer qu'elles peuvent vivre sans leur compagnon et qu'elles peuvent vivre sans la violence. Et au cours des entretiens, on va aussi les amener à réfléchir où s'enracine cette acceptation des mauvais traitements qu'elles subissent.
Alors là, on touche un peu à la psychologie. Donc, comment sont formés finalement les salariés
Donc, j'ai dit que c'était des travailleurs sociaux diplômés, bien sûr, et qui ont ensuite des formations spécifiques sur ces questions de violence pour savoir comment on attrape cette question-là. Puisque, effectivement, si les victimes de violence viennent nous voir, ce n'est pas pour qu'on leur dise ce qu'elles doivent faire. La décision doit venir d'elles-mêmes. Donc, elles ont été niées en tant qu'individus. Apprendre à dire je, ce n'est pas simple, ça prend du temps et c'est ce qu'elles vont faire au cours de l'accompagnement qu'elles vont avoir à SOS. Il n'y a pas de jugement et évidemment pas de contrainte à aller porter plainte ou à quitter son conjoint violent. La décision doit venir d'elles, ce n'est pas nous qui allons leur dire quittez-le, portez plainte, vengez-vous, etc. C'est vraiment des femmes qui peuvent être déjà parties mais qui hésitent ou des femmes qui sont encore au domicile, qui vont parfois y rester, qui vont arrêter de venir à SOS et qui reviendront plusieurs mois après. Voilà, c'est un cheminement au long cours, sans jugement évidemment porté sur la décision de la femme, on sait que ça prend du temps.
Alors si jamais une femme souhaite être par contre accompagnée dans ces démarches, est-ce que vous en avez la capacité ?
Bien sûr, on accompagne des femmes parfois chez l'avocat lorsqu'elles ont peur d'y aller toutes seules, de ne pas tout comprendre ou d'oublier des questions qu'elles souhaiteraient poser. On peut les accompagner chez l'avocat. On a accompagné des femmes au service de médecine légale. On les accompagne lorsqu'elles passent au tribunal pour ne pas être seules dans la salle d'attente et ne pas être encore menacées. Et nous avons aussi des règles de sécurité à SOS Violence Conjugale puisqu'il nous est arrivé d'avoir été menacés par ces hommes qui ne supportent pas qu'on puisse aider leurs femmes. Donc voilà, on est présente au tribunal et on est présente aussi pour les collègues pour faire attention qu'elles puissent accompagner et ressortir du tribunal en toute sécurité.
Alors vous évoquiez en début de rencontre des logements que vous avez à disposition pour loger ces femmes qui vont partir de chez elles. Comment ça se passe en cas de relogement ?
Alors, c'est de l'hébergement, hein, dans un premier temps. Le logement, c'est lorsqu'on est soi-même titulaire du bail de son logement. Donc, j'ai dit que la porte d'entrée, c'était bien souvent la permanence d'écoute et d'information. Donc, on aura deux types de femmes, soit des femmes qui viennent parler des violences, qui viennent réfléchir à ce qu'elles peuvent faire et qui vont prendre du temps jusqu'à ce qu'une décision concrète soit mise en place. Et puis, il y a d'autres femmes qui viennent nous voir parce qu'elles veulent quitter leur mari, elles ont pris cette décision et qu'elles demandent une place dans nos hébergements. Donc, dès qu'on a une place, on leur explique comment fonctionnent nos centres d'hébergement. Ça peut être un appartement qui est partagé entre deux dames. Elles ont chacune une chambre qui ferme à clé et elles se partagent la cuisine, le salon. Ce sont des appartements meublés comme chez vous et chez moi. Il y a une machine à laver le linge, un frigo, une télé, des lits, des tables, des bureaux pour que les enfants puissent travailler. Une salle de jeu aussi pour que les mercredis, les éducatrices puissent aider les mères et les enfants à ce que chacun reprenne sa place. Parce que pendant les violences conjugales, souvent les femmes ont été tellement soucieuses, avaient tellement de difficultés à défendre leur propre sécurité qu'elles ont parfois elles ont manqué de vigilance par rapport aux besoins de leurs enfants. Et voilà, nous avons installé des salles de jeu dans les appartements pour que chacun reprenne sa place et que la mère reprenne du temps avec son enfant. Voilà, donc lorsqu'il y a une place, eh ben, il y a une dame qui vient, on lui explique qu'elle n'a pas le droit de recevoir de visite dans le logement, que ce sont des logements avec des faux noms sur la porte pour que personne ne puisse les identifier. Leur courrier est reçu au siège de l'association pour que personne ne sache où se trouvent ces logements. Quand les logements finissent par être un peu trop repérés, on les déménage. Et elle reste le temps qu'il faut. On se rend compte qu'il y a une paupérisation du public à Saint-Étienne et que les femmes d'un milieu plus aisé ont moins besoin qu'elles ne l'avaient il y a peut-être 10-15 ans de venir dans ces centres d'hébergement. Donc aujourd'hui, on a des femmes un peu plus démunies, parfois des femmes étrangères qui sont parfois en précarité administrative. Et du coup, on aura des prises en charge qui vont s'allonger. Et elles quittent le centre d'hébergement, soit pour retourner à domicile. On a 10% à peu près de femmes qui redonnent une nouvelle chance à leur mari. Et puis d'autres femmes qui quittent la région pour se rapprocher d'une sœur, d'une amie qui habite dans un autre département, ou des femmes qui s'installent dans la Loire et qui prennent leur propre appartement. Et donc, quand une femme part, il y en a une autre qui arrive.
Alors, vous avez insisté aussi tout à l'heure sur, et vous venez d'en parler, sur les enfants qui vont souvent être témoins de ces violences-là, qui vont aussi peut-être avoir un sentiment de délaissement de la part de leur mère, qui se protège elle-même. Ces enfants-là, est-ce que vous les accompagnez ou est-ce que là, c'est une autre structure qui prendrait le relais ?
Alors, j'ai dit qu'il y avait des travailleurs sociaux qui interviennent. Donc, il y a des assistantes sociales qui sont là pour accompagner les femmes dans leur démarche, qui va les conduire jusqu'à un relogement. Mais il y a à mettre en place tout ce qui concerne l'ouverture des droits sociaux, puisque lorsque vous vivez avec votre mari et que vous ne travaillez pas, vous êtes sans argent. Donc lorsque les femmes arrivent en centre d'hébergement, il faut ouvrir les droits au RSA, parfois du Pôle emploi, enfin, il y a différents cas de figure. Il y a à mettre en route toutes les démarches juridiques. Est-ce qu'elles veulent divorcer? Est-ce qu'elles sont mariées? Est-ce qu'il faut régler le droit de garde de l'enfant? Il y a des démarches autour de la formation professionnelle pour certaines femmes qui veulent reprendre le travail. Il y a tout ce qui concerne l'enfant, la scolarisation lorsqu'ils sont en âge d'aller à l'école. Il y a tout ce qui concerne la santé, puisque souvent ces femmes ont été blessées, n'ont pas toujours été soignées correctement. Et puis, on va mettre en place, au bout de quelques temps, les démarches autour du relogement. Donc ça, ce sont les travailleurs sociaux qui s'occupent des mères et des femmes qui vont se charger de toutes ces démarches. Et puis, nous avons un travailleur social, une éducatrice, qui est spécifiquement chargée de la prise en charge des enfants avec leur mère. Il ne s'agit pas de faire à la place des mères, mais d'étayer les mères pour qu'elles puissent reprendre en charge les enfants. Donc nous avons des entretiens famille, par exemple, qui sont mis en place pour apprendre la communication, pour que la communication recircule entre tous les membres de la famille, puisque souvent la violence a fait taire et a rendu tout le monde très silencieux. Et puis nous avons une salle de jeu où, à travers les jeux, à travers des supports plus ludiques, les enfants vont pouvoir exprimer les émotions, la peur de retrouver papa, la peur de revoir papa dans le cadre d'un droit de visite, la peur que papa tue maman, la peur que papa les retrouve. Donc ça, c'est important que l'enfant puisse exprimer cette angoisse, qu'on puisse lui donner des règles de sécurité lorsqu'il reverra son père, pour qu'il ne se sente pas démuni. Et puis, c'est important aussi qu'on puisse donner des règles aux enfants pour dire que la violence que le père a agi au domicile est absolument illégale et interdite en France et dans un certain nombre de pays. En tous les cas, on n'a pas le droit de se comporter comme ça. Et c'est important de dire à l'enfant que voilà, on vit dans un pays où les hommes et les femmes sont égaux, qu'on n'a pas le droit de traiter sa petite sœur comme ça, et voilà, de redonner aussi d'autres valeurs et de montrer comment on met en œuvre d'autres valeurs dans le quotidien.
Alors, dans le cas d'un hébergement sur une durée longue, vous avez dit le droit de visite. Est-ce que les pères demandent aussi la possibilité de voir leurs enfants? Et puis, comment on agit face à cette situation-là, où il fait peut-être valoir, entre guillemets, ses droits?
Alors, lorsqu'une femme part du domicile avec ses enfants, elle a le droit de partir. On a travaillé ces questions-là avec des magistrats. Quand on se sépare, on ne coupe pas un enfant en deux, même si le père et la mère ont les mêmes droits, on ne coupe pas un enfant en deux pour qu'il y en ait un qui garde le côté gauche et l'autre le côté droit. Donc les femmes, très vite, vont lancer des procédures judiciaires pour obtenir le droit de garde de l'enfant. Et lorsque des hommes viennent faire scandale à l'association ou viennent nous menacer, on leur dit qu'ils ont les mêmes droits que leurs femmes et qu'ils peuvent aussi aller voir un avocat pour obtenir le droit de visite ou le droit de garde. Pour ces hommes-là qui nous menacent, bien souvent, l'important, ce n'est pas d'obtenir le droit de garde de l'enfant, mais c'est effectivement d'essayer de rapeter l'enfant pour que la femme revienne au domicile. Donc, il y a des pères qui sont effectivement sincères dans leur souffrance de ne pas voir leur enfant, mais il y en a d'autres dont la stratégie est plutôt de ramener l'épouse à la maison. Donc ça, c'est le juge qui va décider. Nous sommes absolument distanciés par rapport à ça, mais c'est important que très vite, il y ait une décision de justice qui dise qui a la garde de l'enfant et comment se déroule le droit de visite. Donc les droits de visite ne se font absolument pas à SOS Violence Conjugale, puisqu'on ne veut pas que les pères sachent où sont logées les femmes. Elles sont domiciliées, l'adresse qui est donnée, c'est l'adresse du siège de l'association. Et il existe à Saint-Étienne soit un lieu neutre, point vert, où le juge peut décider que les enfants verront leur père dans ce cadre-là, qui est un cadre sécurisé avec des travailleurs sociaux et des bénévoles qui sont présents et qui veillent à ce que le père se comporte comme un père. Et puis, il y a aussi des droits de passage qui se font devant les commissariats de police lorsque un père doit prendre son enfant le samedi à 18h et le ramener le dimanche à 18h pour qu'il ne vienne pas au domicile. Le juge peut décider que le passage se fera devant un lieu neutre.
Quand on parle d'une année à SOS Violence Conjugale 42, combien de femmes viennent vous voir, si vous avez des chiffres,
oui.
Et puis quelle est s'il y a une durée moyenne d'accompagnement, est-ce que ça vous avez été entre gros guillemets des statistiques ou non?
Alors, nous avons des statistiques très précises sur certains points, mais pas sur la durée de l'accompagnement. L'année dernière, nous avons dû recevoir sur la permanence d'écoute 400 victimes qui sont venues à peu près 4000 fois. Donc, il y a des personnes qui viennent qu'une fois et puis il y en a d'autres qui vont avoir un accompagnement avec plusieurs entretiens. Et sur le centre d'hébergement, il me semble que nous avons hébergé l'année dernière 35 femmes avec une cinquantaine d'enfants. Et je l'ai dit que les durées de prise en charge s'allongeaient, donc ça explique effectivement qu'on n'héberge pas plus de femmes. Mais l'idée, c'est pas d'en héberger beaucoup, parce que si on en hébergeait beaucoup, ça voudrait dire qu'elles ne resteraient que deux jours. Et que si elles restaient que deux jours, ça voudrait dire qu'elles retournent au domicile. Donc voilà, on a des situations de plus en plus précaires, ce qui explique que les prises en charge s'allongent et qu'on héberge moins de femmes. Mais enfin, l'hébergement est toujours plein. Dès qu'une femme part, il y en a une autre qui arrive.
Alors, si l'on parle encore de statistiques et peut-être d'études, quels sont les mécanismes qui reviennent de ces violences? Est-ce que on parle d'addiction, d'alcool? Est-ce que, bien sûr, ça, on comprend que ça peut aider. De conditions sociales? Est-ce que ça aussi, il en est question? De culture? Est-ce que vous établissez peut-être, vous, au sein de l'association, des tableaux qui mettraient en lien différentes choses?
Alors, c'est une question compliquée. Il y a eu une enquête en l'an 2000 en France qui révélait qu'une femme sur 10, âgée de 20 à 59 ans et vivant en couple, était victime de violence. Victime de violence, comme je l'ai définie, physique, sexuelle, verbale, psychologique. Une femme sur 10. Et l'enquête spécifiait qu'il y avait un facteur aggravant lorsque ces femmes étaient en précarité économique. Mais que lorsqu'elles avaient du boulot, qu'elles soient ouvrières ou professions libérales, elles étaient victimes de violences dans les mêmes proportions. Il y a eu des enquêtes suisses qui ont étudié l'appartenance religieuse et qui ont montré, alors là je vais le dire vite, je n'ai pas les chiffres très précis en tête, que ce qui préservait les femmes c'était la laïcité. Je suis heureuse de pouvoir le dire comme ça aujourd'hui, car toute religion confondue, finalement les religions sont peu respectueuses des femmes et les ont plutôt toutes mises dans une situation d'infériorité, qui fait qu'au nom de ces valeurs religieuses, les femmes n'osent pas quitter leur mari parce que la séparation c'est mal vu, etc. Donc il vaut mieux être laïque que... appartenant à une religion ou à une autre. Voilà. Donc nous, à SOS Violence Conjugale, sur le lieu d'écoute et d'information, nous recevons des femmes majoritairement françaises et appartenant à tous les milieux, travaillant ou ne travaillant pas, mais nous avons beaucoup de femmes qui sont en situation d'indépendance économique. Sur la partie hébergement, j'ai parlé de paupérisation et nous avons massivement des femmes étrangères qui sont hébergées aujourd'hui. Sans doute parce que depuis 20 ans, la prise en charge de cette problématique des violences conjugales a changé et que les femmes qui appartenaient à un milieu un peu plus privilégié n'ont plus besoin de venir dans un centre d'hébergement de SOS Violences Conjugales. Elles ont d'autres solutions aujourd'hui et ça c'est super, ça veut dire que les choses ont avancé et qu'il reste que les plus démunis et qu'aujourd'hui sur la partie hébergement, les plus démunis qui ont besoin de cet hébergement, ce sont plutôt des femmes étrangères.
Si l'on parle de violence conjugale, on peut imaginer le même toit, le foyer familial, mais il peut y avoir aussi des violences entre petits amis qui n'habitent peut-être pas ensemble. Est-ce que ça aussi, c'est des femmes viennent vous voir qui sont dans ce cas-là, qui, elles, finalement, essayent de se libérer de l'emprise d'un petit ami qui n'habite pas sous le même toit?
C'est absolument identique. Donc, j'ai peut-être pris du temps pour définir ce qu'était la violence, peut-être pas assez pour dire conjugale. Conjugale, c'est effectivement tout ce qui relie un homme et une femme, ou deux femmes ou deux hommes, hein, puisque nous recevons quelques couples homosexuels, dans le cadre d'une relation amoureuse. C'est ça, la violence conjugale. Et j'ai vu qu'il y avait des articles qui commencent à circuler pour dire qu'il faut bannir ces expressions de crimes passionnels. On ne tue pas au nom de l'amour. On tue parce qu'on ne supporte pas que l'autre nous échappe. Sur la conjugalité, donc c'est soit on est marié, on reçoit soit des couples mariés, soit des couples en concubinage, soit des jeunes femmes qui ont une relation amoureuse avec un petit copain. On a des jeunes filles de 18 ans, 20 ans, 21 ans qui sortent avec un garçon qui commence déjà à les maltraiter. Donc c'est bien tout ça, c'est bien toutes les violences qui sont dans le cadre d'une relation amoureuse privilégiée.
On entend depuis longtemps, et plus particulièrement depuis ce début d'année 2019, quand on va sur les réseaux sociaux, on peut voir un chiffre qui évolue chaque jour, c'est le nombre de femmes tuées par son conjoint, ex-conjoint. Là, c'est les violences à l'état extrême, ça va jusqu'à l'homicide. Et puis, l'État s'empare de cette question par le biais de Marlène Schiappa, secrétaire d'État en charge de l'égalité femmes-hommes. Le fait qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup, qu'on en parle à la télévision, qu'on en parle à la radio, dans les journaux, sur les réseaux sociaux, est-ce que ça montre simplement que ces violences existent et sont prégnantes et sont présentes partout, ou est-ce que vous sentez qu'il y a une prise de conscience de la part d'auteurs ou de la part de victimes qui se sentent moins, entre guillemets, seules?
Alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une problématique qui est prise en charge depuis de nombreuses années par les différents gouvernements successifs. Donc vraiment, les choses ont avancé et nous travaillons aujourd'hui dans de bonnes conditions, dans la Loire et en France. Il y a des mesures qui sont prises en charge. Les femmes peuvent bénéficier d'un téléphone grave danger lorsqu'elles se sentent extrêmement menacées par un conjoint. Elles peuvent obtenir la jouissance du domicile conjugal et l'auteur peut en être évincé. On vit dans un pays où on a le droit de quitter son mari. Enfin, on ne peut pas reprocher aux femmes d'avoir abandonné le domicile conjugal. Il y a encore beaucoup de femmes qui disent « Oulala, si je pars, on va m'accuser d'avoir abandonné le domicile conjugal ». Non, non, il faut partir quand on est en danger. On a le droit de partir. On a la chance de vivre dans un pays où il y a des centres d'hébergement. C'est-à-dire que lorsqu'une femme part, si elle n'est pas soutenue par sa famille, elle ne se retrouve pas à la rue à vivre avec ses enfants sous un porche. Il y a des centres d'hébergement pour les accueillir. Donc voilà, on vit dans un pays où il y a un certain nombre de choses qui sont mises en place, qui peuvent toujours s'améliorer, mais globalement, ça fonctionne. Et dans la Loire, on a un réseau partenariat qui fonctionne bien. Là où il reste sans doute des choses à faire, c'est effectivement pour faire diminuer le nombre de féminicides, puisque ce sont des femmes qui sont tuées parce qu'elles sont femmes. Et je repense à une sociologue, une psychologue qui a écrit un livre sur le crime passionnel, qui dit que les hommes tuent leurs femmes pour les garder. Les hommes tuent leurs femmes parce qu'ils ne supportent pas qu'elles leur échappent, et après lui, elle n'aura pas un autre homme. Il la tue, elle reste sa chose à lui. Alors que les femmes tuent leur mari pour s'en débarrasser. Et les dernières situations où les femmes ont tué leur mari, c'était effectivement des femmes qui étaient victimes de violences conjugales et qui un beau jour soit se défendent ou craquent, n'en peuvent plus et tuent. Donc là, il faut absolument encore continuer les campagnes d'information pour dire à ces femmes. Alors, il y a deux sources. Il y a deux cibles pour ces campagnes d'information. Il y a les victimes potentielles, pour dire partez avant qu'il ne soit trop tard, parce qu'avant que ces hommes passent à l'acte et tuent les femmes, et ben effectivement, il y avait dû y avoir des menaces. Est-ce qu'elles les ont sous-estimées? Est-ce qu'elles n'ont pas eu l'aide à ce moment-là dont elles avaient besoin, qui les ont fait rester à domicile? Je pense que c'est des dossiers qu'il faudrait pouvoir étudier pour savoir où ça a loupé, pour qu'on en arrive là. Et puis, sans doute, il y a encore beaucoup à faire à la police et la justice pour qu'on prenne au sérieux les menaces et qu'on n'attende pas que la femme soit assassinée en se disant à ce moment-là, ah ben c'était pas des mensonges, c'était pas une stratégie dont elle parlait, mais c'était bien une réalité. Il y a effectivement dans notre pays, c'est une démocratie, une présomption d'innocence qui doit continuer à jouer bien sûr pour tous, mais il faut aussi que dans certains cas, il y ait une présomption de véracité. Toutes les femmes qui se plaignent ne sont pas des menteuses et il faut que là on puisse effectivement très vite agir pour les mettre à l'abri et neutraliser l'auteur susceptible de passer à l'acte. Là, il reste beaucoup à faire puisqu'une femme décède tous les 2 jours et demi en France. Enfin, c'est énorme pour le pays des droits de l'homme.
Alors, pour éradiquer ce fléau, il y a un outil qui peut marcher, c'est l'éducation, c'est la sensibilisation envers les plus jeunes sur cette égalité filles-garçons, oui. Femmes-hommes. Comment vous agissez, vous, dans ce champ d'action? Est-ce que vous en avez la possibilité? Et puis, on le sait, hein, vous intervenez notamment durant les semaines de l'égalité, dans le bus de l'égalité, avec des ateliers, mais tout au long de l'année, comment ça se passe?
Bien, mes collègues, nous avons des collègues qui ont constitué un groupe prévention et qui interviennent dans les établissements scolaires qui les sollicitent pour justement faire réfléchir les jeunes avec des outils adaptés aux différentes tranches d'âge pour les faire réfléchir sur ces questions d'égalité, puisqu'on entend, il nous arrive d'entendre encore ah ben moi, mon petit copain me tape, c'est super, c'est qu'il est jaloux, donc c'est qu'il est amoureux. Donc il y a effectivement à déconstruire ces idées reçues, la possessivité n'est pas un signe d'amour. Donc voilà, on intervient pour ouvrir le débat avec ces jeunes et semer des graines qui, espérons, pousseront pour améliorer l'égalité. Alors, il y a à faire au niveau de la prévention et puis il y a à faire aussi au niveau de la justice. Et je pense que la justice a eu un tournant il y a quelques années, puisque pendant longtemps, ces plaintes étaient classées. Et aujourd'hui, il y a des circulaires du ministère de la Justice qui rappellent qu'effectivement, il ne doit plus y avoir de main courante. Puisque les mains courantes qui étaient faites en police étaient seulement une déclaration. Voilà, je suis Madame Dupont et je viens déclarer que mon mari hier soir m'a battue, mais je veux juste que ce soit noté dans les registres de la police, je ne veux pas porter plainte. Ça sert strictement à rien et il faut qu'aujourd'hui ce nombre de mains courantes diminue et que ce soit des dépôts de plainte qui soient pris pour que les auteurs de violences soient poursuivis. Il faut qu'on sorte de cette impunité dans laquelle ils ont vécu pendant des décennies en se disant « je tape ma femme, elle ne part pas ». Quand elle va le dire à la police la reçoit mal et la plainte n'est pas transmise au tribunal, donc finalement pourquoi se changerait? C'est bien à partir du moment où la justice va être répressive que les hommes vont se dire que la maison d'arrêt se rapproche et qu'il faut qu'ils changent de comportement. Donc il faut qu'on travaille avec ces hommes sur la répression, bien sûr qu'il faut que la justice continue à sanctionner, et puis nous travaillons aussi, mais ma collègue viendra en parler prochainement, donc je ne vais pas développer, mais nous travaillons aussi avec ces hommes pour qu'ils prennent conscience qu'ils sont en train de saccager leur famille, et puis que le problème vient d'eux.
Alors ces prises de conscience, effectivement, il y a tout un chemin pour y arriver. On parlait donc des plus jeunes, fait d'actualité, ces derniers jours, à l'occasion du G7, des personnes à la tête d'État, notamment le président Bolsonaro du Brésil, a retweeté une attaque misogyne, mais misogyne c'est peut-être léger. Finalement, c'est ces gens-là qui sont à la tête de l'État, on peut parler du président Trump avec tous ces propos qu'il a eus. Comment fait-on finalement ici dans la Loire?
Oui, ben, ça nous aide pas, mais moi j'ai travaillé dans des quartiers dits sensibles, ça nous aidait pas non plus quand on travaillait avec des jeunes délinquants et qu'on montre qu'on a des hommes politiques qui servent dans la caisse et qui confondent aussi la caisse municipale, nationale ou autre avec leur porte-monnaie. Donc je pense qu'effectivement les hommes et les femmes politiques devraient être intègres pour donner l'exemple. Voilà, il ne m'appartient pas de commenter pourquoi les Américains ont porté Trump à la tête de leur pays ou Bolsonaro. Voilà, mais ça ne nous aide pas effectivement quand des hommes qui ont accès aux médias font passer des messages comme ça ou quand les médias dénoncent des malhonnêtetés de nos hommes politiques. Ben, ça n'aide pas les acteurs qui sont sur le terrain et qui essayent de faire passer d'autres valeurs.
Et puis ça brouille le message avec le phénomène MeToo aussi, d'un côté, qui qui témoignent d'une chose réelle, avec des détracteurs qui ont le même niveau de visibilité au même endroit. Ça aussi, ça paraît être un peu compliqué. Mais bon.
En tout cas, ça a été extraordinaire dans le phénomène MeToo que des femmes qui avaient accès à la parole puissent elles dire qu'elles étaient concernées par ça, que ça ne touchait pas que les pauvres. Ben voilà, les violences à l'encontre des femmes sont présentes dans tous les milieux sociaux. Et en fonction du milieu social, on a plus ou moins la liberté de pouvoir parler. Mais ce n'est pas parce qu'on est dans un milieu privilégié que c'est plus facile de dénoncer qu'on est marié avec un dictateur ou un homme qui se comporte comme un sauvage. C'est sans doute encore plus difficile de dire que cet homme qui est connu comme professionnel, etc., peut avoir un autre visage à la maison. Et dans le cadre des violences conjugales, c'est compliqué pour les femmes d'avoir des preuves. Moi, je repense à des victimes qui disent « Ah, enfin, il m'a tapé. Enfin, j'ai un certificat médical qui va pouvoir attester mes dires. » Mais lorsqu'il y a que des insultes, des humiliations, c'est drôlement compliqué pour en parler, surtout si votre mari est un professionnel connu, un médecin, un type qui travaille dans une équipe où tout le monde va dire « Non, non, il est super, c'est vraiment un chouette collègue. » Ça ne va pas aider la victime à dire qu'à la maison, eh ben, il ne se comporte pas tout à fait comme ça.
On va aborder peut-être la question de l'entourage. Est-ce que l'entourage peut aussi faire appel à vous pour signaler des cas de violence conjugale ?
Oui, alors ça c'est une question extrêmement difficile. Bien sûr que l'entourage a un rôle à jouer, mais son rôle est quand même minime. Parce que tant que la victime ne veut pas quitter l'homme qui la maltraite, eh ben, on ne peut pas bien faire quelque chose. Bien sûr qu'il y a des mères qui nous appellent pour dire « Ma fille a un petit copain qui la violente, elle a le nez cassé, elle a ci. » Comment dire à ma fille de quitter ce garçon qui lui fait du mal ? Tant que cette jeune femme ne sera pas décidée à le quitter, même si la mère va porter plainte à la police ou signaler, pour ne pas être accusée de non-assistance à personne en danger, va signaler que monsieur un tel violente mademoiselle X. Voilà, si la police convoque la jeune femme et que la jeune femme dit non, mais ma mère dit n'importe quoi, de quoi elle se mêle, tout va très bien. On ne peut pas la faire partir de force. Donc effectivement, l'entourage, nous on soutient un certain nombre de personnes qui viennent parce que dans leur entourage, il y a quelqu'un qui est victime de violence pour qu'elles gardent espoir, pour qu'elles ne ferment pas la porte à la personne qui est victime de violence le jour où elle viendra demander de l'aide, pour qu'on ne la juge pas. Mais c'est extrêmement compliqué. C'est pour ça qu'il faut passer la main à des professionnels parce que pour l'entourage, c'est usant. On a souvent, des chercheurs ont comparé les violences conjugales à une addiction. Donc c'est pareil, on ne se sort pas de l'alcool, de la drogue, de la cigarette en disant « demain j'arrête, tout va très bien ». Il y a des rechutes, et dans le cadre des violences conjugales, une collègue du Rhône avait calculé que les femmes faisaient en moyenne 7 tentatives de départ avant le départ définitif. C'est long, 7 départs, quand on est la mère, quand on est la sœur, quand on est la meilleure amie ou le frère. Peu importe, il y a des tas de gens qui sont soucieux de la victime de violence. 7 tentatives de départ, c'est long, et on se décourage et on dit « bonjour, bah écoute, tu l'as choisi ». Franchement, si t'acceptes, c'est toi la plus conne, si t'acceptes qu'il te traite comme ça. Et voilà, c'est pas ce qui encourage cette femme, ça finit de l'enfoncer. Donc il faut passer la main à des professionnels parce que voilà, le professionnalisme, nos techniques d'intervention nous permettent d'avoir cette patience et cette distance pour accompagner au long cours et permettre des rechutes sans jugement.
Pour les femmes qui nous écoutent et qui se reconnaîtraient en tant que victimes et qui souhaiteraient faire appel à vous ou une personne qui pourrait l'écouter, quels conseils vous pourriez donner ?
Il faut en parler, des violences. On peut nous appeler. Donc j'ai dit qu'on pouvait téléphoner à l'association pour avoir un rendez-vous, mais on a aussi beaucoup d'entretiens par téléphone. Donc vraiment, on fait tout ce qu'on peut pour faciliter le contact des victimes. Elles sont pas obligées de venir à l'association. Si elles ne veulent pas montrer leur visage, elles peuvent nous téléphoner. On discute par téléphone. On ne leur demande pas leur nom. Elles peuvent nous donner un faux prénom pour qu'on ne leur fasse pas répéter leur histoire à chaque fois. Donc voilà, il y a des femmes qui nous contactent par Internet. C'est pas l'idéal de donner des renseignements par écrit. Mais voilà, on peut renvoyer sur des associations de proximité lorsqu'elles n'habitent pas Saint-Étienne. Je crois que vraiment le contact, c'est de ne pas rester seul et d'en parler. Et d'en parler avec des professionnels qui reçoivent anonymement et gratuitement. Il n'y a vraiment aucun risque d'appeler. On ne se montre pas. On ne peut pas les reconnaître si on les croise sur le trottoir. Vraiment, on peut commencer à en parler parce que très souvent, les victimes sont dans le déni et dans la minimisation. Et il faut savoir que les violences conjugales, iront crescendo, vont aller en s'accélérant et dans le temps et en gravité. Et qu'on en meurt des violences conjugales si on ne fait rien. Donc ça a un impact, excusez-moi, sur la victime et sur les enfants qui sont témoins. Et quel message on veut faire passer à nos filles, de dire c'est normal, quand t'es une fille, t'es battue, ta mère les têtes, ta grand-mère les têtes, tu le seras, ta fille aussi? Ou est-ce qu'on veut lui montrer qu'on peut relever la tête et qu'on peut s'en sortir? De la même façon pour un garçon, est-ce qu'on lui légitime l'image d'un homme qui tape? Ben, mon père battait, ben, moi je bats, voilà. Ou est-ce qu'au contraire, il y a des garçons qui vont dire ben, moi je ne pourrirai pas la vie de mes enfants comme mon père a pourri mon enfance? Donc, il ne faut pas rester seul. On a la chance d'être dans un pays, dans un département où il y a des réponses. Il faut les utiliser. Elles sont accessibles.
Alors, il existe un numéro de téléphone national de la Fédération nationale de solidarité femmes. C'est le 3919. Est-ce qu'on passe par ce numéro-là ou est-ce qu'on peut avoir un numéro spécifique pour SOS Violence Conjugale 42?
Il y a très peu de gens de la Loire qui appellent le 3919. Je veux croire que c'est parce que l'association est connue. On a mis des affiches dans un certain nombre chez les médecins, les pharmaciens. S'ils n'en ont plus, ils peuvent nous appeler pour qu'on leur en fasse passer. La police, la gendarmerie nous connaît. Les travailleurs sociaux nous connaissent. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui nous contactent directement au 04 77 25 89 10. Mais si vous appeler le 3919, ils renverront sur l'association locale. Donc, dans tous les cas, on est joignable.
Alors, Michel Perrin, merci d'être venu parler donc des SOS Violence Conjugale 42, de l'association, mais aussi d'expliquer un peu ce fléau qui touche énormément de personnes et de femmes dans d'autres pays, dans le monde entier, malheureusement.
Merci de nous avoir donné la parole.
Au revoir.